mardi à tout le monde. Vous êtes à l'antenne de BPM Sport. C'est votre animateur Arnaud Gasconadon et Arnaud Pepperall à la mise en onde. Ne perdons pas trop de temps. Allons tout de suite rejoindre Alex Régimbal et Hugues Léger qui sont à l'Omnium Banque Nationale aujourd'hui. Podcast sur la ligne. On vous cède la parole, les gars.
Hey, merci beaucoup, Arnaud. On va te retrouver dans une trentaine de minutes environ. Hugues Léger, je te salue. Bienvenue au Café OBN présenté par Nespresso, une émission qu'on fait tous les matins pour mettre la table à cette journée à l'Omnium Banque Nationale. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Hugues, je veux te féliciter. Parce que, ben, te féliciter toi et surtout toute l'équipe. Parce que hier, on était numéro un au Canada, le radio podcast. Sur la ligne est le podcast numéro 1 au Canada devant des très, très grosses pointures. On est en français, il y a beaucoup de podcasts anglais. Félicitations, mon cher Hugues.
Ouais, ben, félicitations à toi. C'est le résultat d'un travail acharné de l'équipe depuis 3 ans et demi maintenant. Je salue Nicolas Richard, Abraham Santerre, Nicolas Bergeron aux réseaux sociaux et toi, mon cher co-animateur. Les gens au Québec aiment le tennis, demandent du tennis et on est le média qui livre le contenu le plus en profondeur et le plus constant. Je dirais 48 semaines par année, on est vraiment là sur chaque tournoi. Chaque semaine. Donc ça, c'est les fruits du travail qu'on récolte aujourd'hui. Effectivement, on est numéro un au Canada et tu l'as mentionné, on est diffusé en français seulement et on va chercher une audience plus grande que des grandes marques comme ATP Media, comme Tennis Channel, comme Eurosport. Donc on peut être vraiment très fiers là, de ce travail-là.
Oui, exact. Et ben écoute, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai que les gens sont fans de tennis ici au Québec parce qu'on l'a vu hier, malgré la pluie, il y avait encore beaucoup de monde dans les gradins, même tard le soir. On a eu un record d'assistance ce week-end. Alors, écoute, je pense que ça va être intéressant pour les fans de tennis. Si vous cherchez une plateforme, en tout cas, on est là pour vous informer. Et parlant de bien vous informer, rentrons dans le vif du sujet, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Il y avait beaucoup de monde dans les gradins hier parce qu'il y avait une légende sur le terrain. Commençons avec Venus Williams, qu'on n'aura pas peut-être vu pour la dernière fois.
Oui, oui. 43 ans, 7 titres en simple, en grand chelem. La grande Venus Williams. Écoute, peut-être la deuxième plus grande joueuse de l'histoire. Derrière, une autre Williams, sa sœur Serena, sa petite sœur Serena. Je faisais remarquer hier en ondes durant la présentation du match contre Madison Keys que son père s'était fait dire une fois après un tournoi, je pense que t'as le prochain Michael Jordan, quand un coach avait vu Venus, et Richard Williams de répondre, j'ai les deux prochains Michael Jordan.
Ouais, il s'est pas trompé.
C'est exactement ce qui s'est passé avec Venus et Serena. Donc, la foule venait rendre hommage à la grande Venus Williams hier soir.
Ben, il s'est pas trompé. T'sais, on disait toujours, Venus Williams, elle a 7 grands chelems. Elle a été numéro 1 mondial, une des plus grandes joueuses de sa génération et ça reste la deuxième meilleure joueuse de sa famille. Alors, ça en dit long. Hier, on a vu une Venus, j'oserais dire, en fin de carrière. Et je pense que c'est le mot. Elle ne bougeait pas très bien. Tu avais remarqué au service qu'elle était que très peu mobile, les genoux fléchissaient très peu. Ton analyse de ce match-là, Venus Williams, hier?
Dès le réchauffement, j'ai dit, coudon, elle boite quand elle arrive sur le terrain. Elle avait un élastique d'étirement là, comme plusieurs athlètes utilisent pour se réchauffer. Je pense que les conditions un peu fraîches et venteuses aussi ne l'aidaient pas. Et très rapidement, on a vu qu'elle poussait très peu sur son pied droit. Sa jambe droite était tapée aussi. Donc, elle avait de la difficulté à avoir de l'impulsion sur son service, difficulté à se pencher sur les balles basses. Surtout du côté coup droit, ce que Madison Keys a grandement exploité tout le long du match. Mais elle s'est battue comme une lionne, Alex. Elle a sauvé 8 balles de match quand même. Malgré que ce set s'est terminé 7-5, le deuxième, elle a sauvé 8 balles de match. On se dit, coudonc, est-ce que Madison Keys va commencer à flancher un peu? Elle a eu un traitement de physio avant de servir pour le match. Donc, Venus s'est très bien battue, mais oui, physiquement, c'était un peu difficile. C'était laborieux hier soir.
Ouais, bien, à un moment donné, on se demandait même si ça allait commencer à jouer dans la tête de Madison Keys rater autant de balles de match et elle-même, par bout, semblait énormément frustrée en se disant « Bon, mais coudonc, est-ce que ça va arriver? » Elle a même subi des traitements au dos avant les dernières balles de match. Alors, on se disait « Bon, est-ce que le match va... le vent va changer de côté? » Ça n'a pas été le cas, finalement. Madison Keys a quand même complété les choses en deux manches de 6-2 et 7-5. C'est bien fait pour Madison Keys qui va affronter Jasmine Paolini, 49e mondiale au prochain tour. Elle a une fiche de 1-0 contre contre Paolini. Alors, ce sera son affrontement de deuxième tour. Suivez ce match-là, mon cher Hugues, la Canadienne Rebecca Marino. Et bon, on se disait que Marino, peut-être, ça aurait pu être reprenable contre Katie Bolter hier, parce que Katie Bolter, c'est une fille qui, bon, n'a pas un super classement non plus, mais qui arrivait sur une bonne séquence. Mais on se disait, avec le service qu'elle a, elle peut faire des miracles. Rebecca Marino, ton analyse de ce match-là hier?
Katie Bolter, 72e mondial. C'est dans un ordre de classement qui n'est pas très loin de Rebecca Marino, là, qui est autour de la 100e position. On sait que Rebecca rentre dans les tableaux du Grand Chelem directement depuis presque 6 mois. Donc, ça se passe plutôt bien pour elle. Je pensais aussi qu'elle aurait une bonne chance d'aller chercher ce match. Mais son service, qui est son arme principale, on le sait, elle a un one-two punch, service, coup droit. Et quand le service ne fonctionne pas, elle peut pas espérer aller chercher des matchs. Elle a eu de la difficulté à breaker Katie Bolter aussi. Donc, ça s'est joué vraiment là, sur la première balle de Rebecca qui n'était pas à la hauteur de ce qu'elle doit produire. Écoute, à la fin du premier set, on regardait les stats, on était autour de 35%, si je me souviens bien, sur sa première balle. Quand la moyenne des joueurs, là, ça va être entre 60-70%. Et avec son gros service, elle a plusieurs points gratuits quand elle est dans cet ordre de réussite-là en premier service. Donc, c'était impossible. C'était une tâche impossible si son service ne fonctionnait pas. Donc, sèche défaite quand même de Rebecca Marino hier soir.
Bien, écoute, elle a terminé sous les 50% de première balle à 46%. Et elle en a parlé hier en conférence de presse. C'est ce qu'elle a dit. Le point de presse a été particulièrement court, à peine 3 questions. Et elle a dit, quand j'ai vu la stat entre les 2 sets, j'étais pas fier de moi.
Elle savait la stat entre les 2 sets?
C'est ce qu'elle nous a dit hier. Elle a vu la stat entre les 2 sets et elle s'est dit qu'elle était pas fière d'elle. Et j'imagine, quand tu es autour de 40% de première balle mise en jeu, et elle a même spécifié ce dont on parlait hier en ondes, c'est-à-dire quand ton service est ton âme principale et que ça déraille de ce côté-là, ben ça fonctionne pas. Alors, c'est un certain passage à vide du côté de Rebecca Marino. C'est un peu plus compliqué cette année, là, après avoir connu une bonne année l'année passée. Alors, c'est terminé contre Katie Bolter qui, elle, passe au prochain tour. Et elle aura tout un défi au prochain tour, mon cher Hugues, parce que ce sera Coco Gauff dans ses pattes.
Championne de Washington, qui est arrivée à Montréal hier, donc qui est sur une très bonne lancée en ce moment.
Et fille que moi, j'ai dit, ne l'écartons pas comme championne, même si certains ont des réserves. Moi, je ne serais pas surpris d'avoir remporté son plus grand titre.
C'est juste je pense qu'elle va être fatiguée un peu. Là. Elle enchaîne Washington, Montréal.
Elle joue le double en plus.
Cincinnati, elle joue le double avec Jessica Pegula en plus. Donc, il faut qu'elle mesure ses efforts d'ici l'US Open pour ne pas arriver à plat au US Open, qui est l'objectif principal du mois d'août pour elle.
Le dernier match qu'on regardait hier, qu'on gardait du coin de l'œil, c'était celui de Jennifer Brady contre Yelena Ostapenko. Et Jennifer Brady a quand même surpris. Oui. Elle a battu Yelena Ostapenko. Oui. Bon, si vous ne connaissez pas l'histoire de Jennifer Brady, elle a été à l'écart du jeu pour un bon moment. Elle est revenue chez nous à Granby il y a 2 semaines. Oui. Ça avait fait une grosse histoire quand même aux États-Unis. Là. Ça avait fait jaser pas mal son retour au jeu parce que c'est une ancienne finaliste de Grand Chelem. Alors, elle a à peu près pas joué depuis un bon moment. Hier, elle affronte Yelena Ostapenko qui connaît une bonne saison, championne de Grand Chelem. Et elle l'a battue.
Oui. Un drôle de score encore. Donc, Jennifer Brady gagne 7-6, 0-6, 7-6. Donc, Ostapenko qui met un bagel à Brady dans le deuxième set, mais Brady qui s'en remet quand même et réussit à aller chercher le troisième, 7-6. Belle performance. Et là, on a vu une championne là, en Brady d'aller chercher un match de cette manière-là. Puis Ostapenko, je l'ai remarqué durant son réchauffement ou son entraînement d'hier, a perdu un peu de poids. Elle a l'air d'être plus en forme qu'elle était il y a peut-être 3-4 mois, où elle réussissait à faire quand même des quarts de finale, des demi-finales. Ostapenko, c'est une joueuse qui est toujours en compétition sur le circuit, qui est toujours une joueuse dangereuse. Et elle est 18e mondiale. À Jennifer Brady bat la 18e mondiale hier, Yelena Ostapenko. Et Brady revient de très loin après 2 ans d'absence sur le circuit.
Écoute, c'est quand même phénoménal ce qui s'est passé du côté de Jennifer Brady. Hier, c'était un adversaire à prendre très au sérieux du côté de Jennifer Brady. Allons du côté de Toronto parce que là aussi, on a eu une surprise. Et j'oserais dire, ben franchement, c'est peut-être déjà la surprise du tournoi.
Oui.
Ça va être difficile à battre. Parlant de joueur qui n'a pas joué beaucoup, Milos Raonic n'a pas joué 10 matchs cette année. Et là, ça mène contre un top 10 mondial, Francesc Tiafoe, perd le premier set et sort de là avec la victoire.
Mais quelle performance! Oui, c'est déjà, évidemment, c'est une journée du tournoi, il va se passer beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions à venir encore à Montréal et Toronto, mais je dirais que dans le monde du tennis, c'est une grosse surprise ce qui s'est passé hier. Tiafoe, 9e favori du tournoi. Miloš qui est là sur une wild card. Très peu de jeux. On sait qu'il a joué sur gazon, sa surface préférée sur Wimbledon et en préparation pour Wimbledon aussi. Mais Tiafoe, pour nous, c'est un des meilleurs joueurs au monde, toutes les surfaces. C'est un joueur qui est un prétendant au US Open, je dirais, année après année depuis 2 ans. Donc, c'est une victoire surprenante. Et c'est une victoire qui est un indicateur qui reste du bon tennis à Miloš encore. Je me disais à Wimbledon, bon, qu'il va avoir des points gratuits sur gazon. C'est, avec son gros service, il y a beaucoup de points gratuits. Il arrive sur une surface qui est plus neutre avec le dur. Je me dis, Tiafoe va réussir à bien retourner son service. Mais non, un score classique de Miloš Raonic. 2-7 qui se rend au tie-break. Donc, il gagne ce match 6-7, 7-6 et 6-3. Comme souvent, son adversaire en troisième set n'en pouvait plus de ce gros service. Mm-hmm. Il s'est découragé un peu. Donc, Miloš a réussi à sauver avec le set. Bravo, quelle performance de Miloš Raonic.
Parce que pour mettre en contexte, Miloš Raonic là, avait à peu près pas joué depuis 2020. Là. Il avait joué en 2021 ouais. Un peu. Là, il avait terminé en fin d'été, mais il avait joué une douzaine de matchs seulement. Et depuis ce temps-là, il n'avait pas joué. Certains même pensaient qu'il était à retraite, dont nous, soyons bien honnêtes.
Aussi, il y a eu des grandes périodes de doute. Hein. C'était pas sûr qu'il reviendrait.
Et là, cette année, il fait un retour. Il surprend tout le monde aux Pays-Bas. On le voit affronter Kecmanovic. Et le bas, et là, ben là, on commence à s'énerver un peu. Fait quand même pas si mal à Wimbledon, mais c'était seulement son 5e match cette année. Et là, bon, un top 10. Honnêtement, s'il pensait prendre sa retraite à Toronto, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une seconde réflexion, comme on dit.
Oui. Donc là, il se retrouve dans une situation où il va devoir prendre quelques décisions, mais ça veut dire, est-ce qu'il demande un wildcard pour le US Open? Est-ce qu'il fait les qualifs pour le US Open? Parce que c'est pas gagné qu'il va pouvoir entrer directement. J'ai bien hâte de voir quelle décision là, Miloš va prendre pour la suite, mais c'est certain que le match d'hier va lui faire reconsidérer la suite assurément. Là. Et je regarde rapidement, là, Alex, son premier tour, son prochain tour.
Tu parles de Miloš Raonic?
Oui, il va se...
Ça sera Taro Daniel.
Ça, c'est Taro Daniel, qui est un joueur prenable aussi. Donc,
ben oui.
À suivre pour Miloš.
Il a une fiche de 2-0 contre Taro Daniel, voilà. Qui est 115e mondial. Voilà. Alors, c'est très, très, très prenable. Et Taro Daniel, si je ne me trompe pas, a dû se qualifier pour le tournoi. Alors, il aura joué plus de matchs que Miloš, ça, c'est sûr. Rapidement, il y a un autre Canadien qui était en action. Et lui, c'est décevant. C'est une performance très positive dans les circonstances. C'est seulement comment ça s'est passé, voilà. Que c'est un peu dommage. Avant le match, on se disait, s'il y en a un qui peut peut-être surprendre, c'est bel et bien Alexis Gallardo. Et il ne nous a pas fait mentir. Il a fait tout un match hier à Cerundolo. Mais Hugues, explique le contexte dans lequel le match est terminé, parce qu'il aurait très bien pu gagner ce match-là, il l'a échappé.
Oui, il joue contre Cerundolo, donc un des très bons joueurs du circuit. On en a parlé hier en avant-match. Deux joueurs au style très comparable, c'est des relanceurs de fond de terrain. Deux joueurs teigneux qui s'accrochent, des pitbulls sur le terrain. On se disait, Alexis, qui sortait sa victoire à Granby, est en confiance en ce moment, avait une chance d'aller chercher ce match-là contre Cerundolo. Donc, le match se déroule comme suit. Il perd le premier 7-6-2. Donc 6-2 Cerundolo au premier. Alexis renverse la vapeur. 6-4 au troisième. Prend une avance de 3-0 au début du troisième avec le break. Et là, il est en position de contrôle, de commande pour aller chercher ce match-là. Malheureusement, il a échappé son break. Et comme je te disais durant le match hier, à ce moment-là, je dis, j'ai peur que ça soit fini. Parce que quand tu as une chance contre un joueur de ce niveau-là, tu ne peux pas l'échapper. Et il l'a un petit peu échappé après avoir mené 3-0 pour finalement plier les chines 6-4 au troisième. Mais un match extrêmement serré contre un joueur beaucoup mieux classé que lui. Il y a quand même du positif de ce match-là, mais il doit être déçu, Alexis, ce matin.
Ben, il a rencontré les médias après la rencontre. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence de presse.
Salut Alexis, deux questions pour toi. La première, c'était quoi ton état d'esprit à 3-0?
Ouais, je pense que il y avait quelques projections dans le futur. Une première victoire en Masters 1000. Il y avait aussi l'ambiance qui était incroyable. Par contre, j'ai essayé de rester dans le présent au mieux que je pouvais. Ensuite, c'est ça, c'est pas évident, surtout justement quand tu as l'adrénaline comme ça. Mais je pense pas que ça m'a affecté trop dans mon jeu. Je pense que c'est surtout peut-être physiquement, je commençais à avoir une petite baisse de régime. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui l'a permis de revenir dans le match.
En anglais, un petit peu, tu as enlevé une manche en 22e mondial. Ça représente pas la victoire, un accomplissement quand même.
Ouais, je pense que pour le moment, je le réalise pas trop. C'est la défaite qui fait plus mal qu'autre chose. Mais je pense que avec du recul dans les prochaines journées, je vais réaliser que mon niveau de jeu appartient à ce niveau-là. Puis prendre confiance à jouer de plus en plus souvent de cette façon-là. Je pense que j'ai joué assez agressivement aujourd'hui. Puis j'ai été récompensé pour ça.
Salut Alexis, Antoine Radio-Canada. Es-tu plus satisfait de ton match ou déçu d'avoir laissé filer une avance de 3-0 en troisième manche contre un 22e mondial? Qu'est-ce qui est l'émotion qui ressort le plus en ce moment?
Ouais, en ce moment, c'est plus de perdre avec une avance d'un bris. Par contre, c'est la réalité du tennis professionnel d'haut niveau en Masters 1000. Ça suffit pas d'avoir un bris. Je pense que si j'avais eu le deuxième bris pour faire 4-0, ça aurait été autre chose. J'ai eu des petites opportunités justement de me créer une avance de 4-0. Donc c'est un petit peu ce moment-là qui me revient en tête. Mais sinon, tu sais, je pense que j'ai quand même gardé un bon niveau de jeu. Je pense que c'était un petit peu physiquement, avec peut-être un pas de plus à chaque balle qui aurait aidé, là.
Il est un peu dans le même état d'esprit que nous, Alexis Galarneau, c'est-à-dire satisfait de se rendre compte qu'il peut appartenir à ce niveau-là, mais déçu de savoir qu'il aurait pu remporter ce match-là. Rapidement, Hugues aussi, un autre Canadien qu'on aime beaucoup suivre et qui a encore de grandes aspirations, mais pour lequel c'est encore un peu compliqué. Vacek Pospisil, hier, s'est incliné.
Ouais, Vacek, qu'on avait vu à Granby, qui se disait encore motivé pour revenir dans le top 40, top 30, mais bon, les résultats pour Vacek ne sont pas à la hauteur de ses ambitions en ce moment. Donc, on verra comment ça va se passer pour la suite, mais bon, c'est une défaite en 2-7 pour lui à soir.
Si tu le veux bien, Hugues, on va faire une courte pause et au retour, on va aller rejoindre Nicolas Richard à Toronto et on va mettre la table pour ce qui s'en vient ici à Montréal et à Toronto.
Es-tu game?
Un événement chouchou des Montréalais. Une capsule originale sur la ligne dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale présentée par Rogers et Mazda des Sources. Le tout nouveau CX-90 est disponible dès maintenant. Roulez avec nous. Roulez en Dilary.
L'Omnium Banque Nationale est un incontournable du calendrier sportif montréalais. Le tournoi organisé par Tennis Canada est un événement de premier plan du circuit de l'ATP pour les hommes et du circuit de la WTA pour les femmes. Les villes de Montréal et Toronto accueillent en alternance les hommes et les femmes. Le tournoi a été fondé en 1881, ce qui en fait l'un des plus anciens tournois de tennis au monde. À ses débuts, il était réservé aux hommes. Au cours des décennies, de nombreux grands champions de tennis mondial ont remporté ce tournoi, tels Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova et bien d'autres. L'Omnium Banque Nationale est très populaire auprès des amateurs de tennis. Le tournoi détient le record d'assistance pour un tournoi d'une semaine. Le tournoi passera en format 12 jours dès 2025 et proposera la bourse équivalente pour les femmes et les hommes dès 2027.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme celui-ci, avec lequel même plusieurs heures dans le trafic équivaudront toujours à zéro émission. Polyvalent, stylé et entièrement électrique, le nouveau Toyota BZ4X fait sa marque, tout en vous aidant à réduire votre impact. Quand on a besoin d'efficacité énergétique, c'est l'heure Toyota. Voyez le nouveau BZ4X 100% électrique sur achetezmatoyota.ca ou visitez votre concessionnaire Toyota.
Salut tout le monde, ici JC pour vous présenter un truc que Bet99.net vous propose pour jouer de façon responsable. Jouez toujours en fonction de vos moyens. Fixez-vous un budget que vous pouvez vous permettre et respectez-le. N'empruntez jamais d'argent. Faites-en une expérience le fun et sociale. Ça prend une autre tournure quand vous mettez la pression sur vos amis et votre famille pour vous aider à rattraper vos pertes. Rendez-vous sur le site de bet99.net pour d'autres trucs pour jouer de façon responsable. À bientôt.
Pour vos gros travaux, on a tout ce qu'il vous faut. Des outils, des matériaux, de la machinerie et surtout, des équipements de sécurité. Sur un chantier, les dangers sont bien réels. Un message d'Hydro-Québec.
Avis aux amateurs de baseball. Jean Drontault vous offre un voyage pour aller voir les Blue Jays dans la métropole canadienne. Le 16 et le 17 septembre prochain, assistez à une partie de la seule équipe canadienne des Ligues majeures qui affrontera les Red Sox de Boston. Le voyage comprend le transport en autocar de luxe, Une nuit d'hébergement au Holiday Inn Toronto Center, les billets pour la partie, en plus de la présence d'une personnalité sportive de la station. Forfait à partir de 515 $ pour une occupation double. Plus de détails sur gendrontour.com.
Allô, Nissan?
Hey, Karine! Ah, oh, t'es pas venue avec ton escouade spéciale?
Non, mais ils te font dire bonjour.
Ah! Bonjour, escouade spéciale. Alors, ta mission aujourd'hui? Tester la traction intégrale intelligente du Nissan Rogue.
10-4.
Ces cinq modes de conduite te permettent d'aller sur tous les types de terrain en toute confiance.
Même dans un chemin escarpé en petite garnotte dans le fond des bois?
Même dans un chemin escarpé en grosse garnotte dans le fond des bois. Louer le Nissan Rogue SV à traction intégrale et toit ouvrant panoramique à partir de 470 $ par mois pendant 64 mois.
Jusqu'au 31 août, à compte de 2585 $, valeur de 39 761 $. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Hey, savais-tu que t'as pas besoin de parler à personne pour devenir membre fils? Je me suis fait livrer ma carte SIM chez moi, puis j'ai fait l'installation de mon Internet tout seul. C'est facile, hein? Passer à fils. Allô? Allô?
Vendredi 11 août, les Alouettes reçoivent les Rough Riders de la Saskatchewan à 19h30. C'est un vendredi musique qui attend les partisans au stade avec un concert d'avant-match et à la mi-temps à la saveur musique country. Offre spéciale pour ce match. 3 billets achetés, le 4e offert. Info goallsgo.com.
C'est en 1983 que Hyundai ouvre l'une de ses premières concessions au Québec. 40 ans sur les routes avec vous. 40 ans d'innovation continue. Et avec près de 3 millions de véhicules vendus au Canada, dont 1 million au Québec, Hyundai est très fier d'avoir été adopté par les gens d'ici et de se sentir comme à la maison sur les routes de la belle province. On peut dire qu'on en a fait du chemin ensemble. Venez célébrer avec nous pendant l'événement 40e anniversaire Hyundai. De nouveaux véhicules arrivent chaque jour. Commandez le vôtre dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
Vape Depot, la plus grande chaîne d'articles pour vapoteurs au Canada. Plus de 45 magasins au Québec et en Ontario. VapeDepot.ca, un service de qualité supérieure. Pour connaître nos différentes adresses et heures d'ouverture, visitez vapedepot.ca. Franchise disponible.
BPM Sport, en direct de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers.
De retour au café OBN, présenté par Nespresso. On est en direct du Stade IGA au Parc Jarry. Deuxième journée du tableau principal à l'Omnium Banque Nationale. On va rejoindre notre collègue Nicolas Richard à Toronto. Nicolas, comment te portes-tu?
Salut Alex, ça va bien, merci.
Yes, et on va faire ça rapidement. Félix Auger-Aliassim, entrée en scène aujourd'hui. À quoi est-ce que tu t'attends?
Je m'attends à une victoire, Alex. Il faut que Félix gagne ce match. On sait à quel point c'est périlleux au cours des dernières semaines. Ben là, affrontera un qualifié. Donc, il faut que Félix parvienne à gagner ce match-là pour retrouver du rythme. Cette séquence du US Open, elle est extrêmement importante au cours d'une saison. Ça demeure le dernier sprint pour le dernier Grand Chelem. Donc, il faut que Félix Auger-Aliassim entame son tournoi du bon pied.
Il va affronter Max Purcell,
un qualifié
exactement. Il a une fiche de 1-1 contre lui. Ça risque d'être un match intéressant. Il a battu deux Canadiens, Max Purcell, en qualification. Il a battu Peter Polanski et Braden Schneur. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Ce sera le match vedette en soirée à 7h ce soir à Toronto. Je pense que Félix va être inspiré par ce que Miloš a fait hier soir. Donc j'espère que ça va lui donner un petit boost pour son premier match.
En tout cas, on a parlé beaucoup d'inconstance dans le cas de Félix Auger-Aliassim. Ce sera un bon moment pour repartir la machine et je vous propose d'écouter une partie de son point de presse de début de tournoi.
Salut Félix, Journal de Québec. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Londres. C'était pas un moment nécessairement facile. Là, tu me sembles détendu.
Ouais.
Je me demandais comment ça va physiquement, puis aussi quel travail tu as fait dans les 3-4 dernières semaines pour arriver prêt ici, devant ta foule, au fond.
Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est des circonstances compliquées là, quand on s'est vu à Londres. Après le tournoi à Londres, la concentration était uniquement sur le fait d'éliminer toute douleur résiduelle que j'avais sur mon genou, de faire un bon travail physique pour être en forme pour les tournois à venir. Puis ma progression a été même un peu plus vite que je l'espérais. J'étais pas certain au début si j'allais être prêt pour le tournoi à Washington. Il y avait un peu d'incertitude. Même ici, je ne savais pas aujourd'hui, au moment où on se parle, comment j'allais me sentir. Puis ça fait maintenant plus ou moins 2-3 semaines que j'ai repris les entraînements à pleine intensité, en jouant des points vraiment avec l'incertitude qu'on retrouve en match aussi. Donc déjà, c'est bien pour ça que je suis beaucoup plus détendu, je pense. Puis je suis heureux puisque maintenant, je prends du plaisir à être sur le court à nouveau sans douleur. Je peux prendre du plaisir aux entraînements, m'engager complètement physiquement. Donc, déjà, c'est déjà une belle victoire pour moi. Je sais que mes ambitions sont très grandes, puis celles des attentes extérieures aussi. Mais pour moi, c'est déjà une victoire d'être de retour sur le court sans douleur.
Alors voilà, Félix Auger-Aliassime qui nous a confirmé un certain inconfort. J'ai hâte de voir dans quel état il va arriver sur le terrain. Ça peut expliquer plusieurs choses. Ce ne sera pas le seul Canadien à entrer en scène aujourd'hui. Il y aura Bianca Andreescu et elle aura tout un défi contre Georgie. Mais je vous propose d'écouter Bianca Andreescu parce que je l'ai rencontrée avant le tournoi. Bianca Andreescu, bienvenue à Montréal. Welcome back in Montreal.
Merci beaucoup. Happy to be here.
How does it feel being back at home?
Yeah, it definitely feels very good. I feel like this is one of my second homes or third homes. I have a few, but I've trained on these courts many, many times throughout my young career. So it's very nice to be back. I feel very comfortable.
What have you missed most from Montreal?
Honestly, the fans here are very, very passionate, and I know they love tennis, so I'm looking forward to see what happens during my matches.
All right. How do you feel being back on the tour full-time, playing a lot of matches, as much as you can? How does it feel being, mostly not injured?
Yes, that's definitely a key for me. I'm doing my best to stay injury-free as much as I can. Obviously, you can't prevent everything, but I've been doing a very good job with it. And it feels very good. I feel like I've gotten a lot of matches under my belt, but I would love some more consistency. Maybe play 3 matches in a row in a tournament would be nice. I'm hoping this tournament's going to be it.
Yeah, Montreal would be a good place to start a nice comeback and going back up in the ranking, right?
Definitely. I really hope to crack the top 20 by the end of the year.
Have you changed anything in your training routine? And with all the injuries, have you tried to find maybe a new solution?
Yeah, for sure. I feel like I've tried a lot of things, and I finally found recently what works best for me. But things can change all the time, but I'm feeling good right now.
How would you evaluate your season so far?
I feel like I can definitely improve, and it's not over yet. There's still a few tournaments. Like I said, I would love to crack the top 20. I definitely don't like seeing the number 44 beside my name, so I'm hoping to get better at that.
Last thing on BB's Got Game. Alors, c'était Bianca Andreescu qui va faire son entrée en scène. Ce sera le cas aussi de Leila Annie Fernandez. Elle va affronter Stearns. Stearns, elle a battu Catherine Sebov en qualification. Ils se sont joués, ces deux-là, un peu plus tôt cette année. Stearns l'avait emporté. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Leila. Entrée en scène de Caroline Wozniacki, ce sera son grand retour. Et à Toronto, Gabriel Diallo va affronter Evans, qui vient tout juste de remporter le tournoi de Washington. Grosse commande pour le Canadien. C'était le Café OBN, présenté par Nespresso, édition du mardi. En mon nom, Alex Régimbal, Hugues Léger et Nicolas Richard, je vous souhaite une excellente journée. Je repasse la rondelle à Arnaud Gascon-Nadon.